Et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France, un épisode aujourd'hui qui sera consacré à la saga de Dune.
A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is vital to space travel. The Spacing Guild and its navigators, who the spice has mutated over 4,000 years, use the orange spice gas, which gives them the ability to fold space. That is, travel to any part of the universe without moving. Oh yes, I forgot to tell you. The spice exists on only one planet in the entire universe. A desolate, dry planet with vast deserts. Hidden away within the rocks of these deserts are a people known as the Fremen, who have long held a prophecy that a man would come, a Messiah, who would lead them to true freedom. The planet is Arrakis, also known as Dune.
De film composé par Toto. On parle bien sûr non pas du film de Denis Villeneuve qui est sorti récemment et qui est un peu la cause de cette émission aujourd'hui. On parle du film de David Lynch qui a ses fans et qui a ses moins fans. Je pense qu'il y a beaucoup plus de moins fans d'ailleurs dans le lot.
Ouais, bah surtout qu'il n'a pas été très encensé déjà sa sortie. Il est devenu culte qu'avec le temps. Donc son nombre de fans. Ouais.
Voilà. Alors, pour animer cette émission aujourd'hui, nous sommes deux, il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et, bizarrerie ou non, Dominique n'est pas avec nous aujourd'hui. Est-ce à cause du thème de l'émission? C'est une grande question. Mais nous lui gardons un petit morceau, hein, c'est comme le gâteau d'anniversaire. On en laisse toujours pour les absents qu'on rapporte à la maison. Donc, cette émission d'une sera en plusieurs parties.
Oh oui.
Voilà, pour pas faire de déçus. Alors... Si on parle de Dune, ici, nous, vous le savez, dans l'émission Heureusement en France, on explore l'univers geek et ludique, donc nous, on va surtout s'attarder sur les jeux vidéo et également les jeux de société. Il y a aussi des comics, des BD, on va explorer tout ça ensemble pendant ces différentes parties. Et nous avons une interview exclusive aujourd'hui qu'on va vous délivrer. Alors, si on parle, avant de parler de Dune, puisqu'il y a quand même un événement, on se doit aussi de parler d'événements, il y a un événement qui est en train de se passer en ce moment, c'est ce qu'on appelle le Z-Event, alors qui a démarré il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, voire un peu, même un petit peu plus.
En 2016, plus précisément.
Voilà, ça fait quand même ça perd d'années. Alors, ce sont des streamers qui se réunissent pour une association et récolter des fonds pour... C'est un peu le téléthon des geeks.
Ouais, mais c'est un téléthon gagnant-gagnant, ce qui veut dire que les streamers font leur travail où ils reçoivent des dons, et ce ne sont pas des promesses de dons. Ce sont des dons directement, l'argent est déjà donné. Et tous les ans, le Z-Event change d'association, comme en 2016, c'était pour ce qu'on appelait les Avengers France, qui était Save the Children. Et après, ils ont changé, ils sont passés par la Croix-Rouge pour l'année 2017, Médecins Sans Frontières, l'Institut Pasteur l'année dernière. Pas l'année dernière, c'est l'année dernière, c'était Amnesty International, pardon. Et cette année, c'est pour l'ONG Action contre la faim. Et ils en sont là sur le site du Z-Event au niveau des statistiques. Alors, je pense que ça ne prend pas en compte les ventes de t-shirts et autres goodies. Ils en sont arrivés à 3 776 000 euros de dons en tout. Pour un Z-Event qui a commencé du 29 octobre, je pense, en soirée, et qui finira ce soir dans la nuit.
Alors généralement, puisque les streamers se donnent des petits challenges, on sait très bien qu'on risque d'avoir un peu plus. Parce que plus on approche de la fin, plus ils se donnent voilà, des missions un peu folles, et les gens veulent mettre un peu 10 euros pour voir quelqu'un se raser les cheveux en direct, ou d'autres supercheries du genre.
Ou tout simplement quelqu'un qui a une très grande communauté, pour pas dire ça se joue en 100K communauté, donc plus de 100 000 personnes qui regardent ce streamer, et qui dit simplement allez sur le live d'un tel et juste donner 1 euro. Ce n'est rien 1 euro. Mais si vous donnez tous 1 euro, ça fait 100 000 euros donnés dans sa cagnotte à lui. Et ça fait passer tel palier. Et il suffit qu'un streamer soit un grand fumeur devant l'éternel et qu'il pensait jamais atteindre ce palier et dit j'arrête de fumer si on atteint ça dans ma cagnotte personnelle. Et ils y arrivent grâce à ça. Et l'année dernière, ils ont passé toute une soirée à faire ça. Et il y a eu énormément de paliers qui se sont déclenchés. Il y en a qui ont regretté.
C'est de la folie, mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc, il est encore temps de vous connecter au Z-Event tout en écoutant l'émission et faire une petite donation, peut-être pour un de vos streamers préférés.
Oui, et puis pour ceux qui ne sont pas forcément friands de tout ce qui est streamer, donc de la plateforme Twitch, ou se disent, je ne connais pas les streamers en question parce que c'est une petite communauté, on va dire une cinquantaine de streamers, ça représente une goutte d'eau parmi... ce qui peut se trouver sur Twitch et sur ce qu'on recherche. N'hésitez pas à aller sur le site du zevent.fr pour voir dans la catégorie clip, et vous allez avoir plein de petites vidéos de best-of de chaque streamer. Il y en a des milliers, il y en a plus de 4000. Vous allez avoir les différents moments que, même si toi tu suis un streamer à ce moment-là, tu peux pas suivre les 49 autres, c'est impossible. Donc tu peux voir toute la bonne entente, toutes les petites bizarreries, toutes les petites choses qui se sont passées, et peut-être accrocher à un streamer et d'aller le suivre sur Twitch et voir ce qu'il fait.
Alors... est-ce qu'on va entamer ce dossier Dune ? Alors, une grande surprise que j'ai appris juste avant l'émission, c'est que tu as été voir ce nouveau film.
Je voulais te garder la surprise pour aujourd'hui, mais...
Ça a été spoilé.
Ça a été spoilé, ouais.
Par malchance. Alors, on va s'épargner, en tout cas pour cette émission, les mini-séries, les formats TV qui... Alors pour le coup, si Lynch n'a pas eu un grand succès, alors là, on est au zéro. Hein.
Ah, ça va.
On est au sous-sol, en fait. On va parler peut-être du film de David Lynch. Alors, c'est vrai que ce film, qui est resté dans les mémoires, puisque c'est quand même un film qui est sorti un peu après Star Wars, et qui avait pour but un peu de coller sur cette vague de science-fiction qui était en train de se produire. Et on a confié à David Lynch, qui ne connaissait pas du tout l'univers de Dune, on lui a dit « Tiens, voilà un film, on a essayé 2-3 fois. »
De mémoire, il a récupéré un bâton merdeux en disant « Essaye d'en sortir avec ça. » Il y avait déjà un projet qui avait été avorté.
Alors, il y a le gros projet de Jodorowsky. Alors, je vous invite, si vous voulez voir ce projet dément d'un film qui devait durer 14 heures... où on pouvait voir Salvador Dali qui allait jouer sur un toilette. Enfin, il y a de nombreuses anecdotes sur ce film qui sont assez cocasses. Le film de David Lynch s'est plus ou moins déroulé. Le tournage s'est plus ou moins bien placé. C'est plus ou moins bien passé. Mais Final Cut, on arrive à 3h30 et David Lynch ne veut pas bouger de sa version. Et on lui dit, oui, mais regarde, ce qui marche en ce moment, ce sont des films de 2h, voire un peu moins. Donc il va falloir que tu coupes 1h30 de ton film. Et c'est ce qu'on appelle la tragédie du director's cut, où David Lynch renie un peu son projet, son film. Et quand il sort, bah, on tombe sur un flop.
Ouais. C'est une des rares fois où un film fait moins que l'investissement qui a été mis dedans pour le faire.
Alors je pense peut-être qu'aujourd'hui, il s'est peut-être rattrapé avec tout ce qui est vente de DVD, bon, à l'époque, c'est pas ce qui compte lorsqu'on sort un film au box-office. Et c'est pour ça que le film de Denis Villeneuve, aujourd'hui, est... lorsqu'il est sorti, on lui a dit, bah écoute, ça prévoit une trilogie, mais on n'annoncera pas le deuxième tant qu'on n'a pas vu les résultats du premier.
Et je pense que là, ils sont même descendus à 2 films. Et tu fais le deux, et là, il y a eu l'autorisation de faire le deuxième. Mais voilà. La trilogie n'a pas été... Enfin, au début, c'était une trilogie. Ils sont descendus à 2 films seulement.
À qui ? Mais bon. Peut-être que, mine de rien, on va te dire, il y en aura un troisième, selon le succès du deuxième. Un petit... Alors, chacun aura son avis différent. On va pas ici créer un débat. Quelle est ta vision du film de Lynch pour ta part ?
Pour moi, il caractérise très bien le terme space opera. Et à part ça, si tu rentres pas dans l'univers, pour moi, il sera daté. Et là, je peux plus le regarder sans m'ennuyer. Mais pourtant, il a d'énormes choses, il y a d'énormes séquences, il y a des très bonnes idées pour l'époque. Mais j'ai un peu de mal maintenant à le revoir actuellement.
Moi, je suis particulier, puisque si on fait cette émission aujourd'hui, c'est aussi parce que voilà, je suis un passionné de l'univers de Dune.
Tu nous teintes de Dune depuis 2 ans, on sait.
Voilà, c'est ça. Donc moi, à part les modules étranges, hein, qui sont une arme qui ont été créées un peu avec le film, moi, il ne m'a pas trop dérangé. C'est vrai que c'est un film qui a très mal vieilli. C'est un film qui a essayé de suivre l'histoire, qui a essayé, voilà. On ne peut pas lui retirer ça.
Non, mais par contre, tu ne peux pas lui dire qu'il a sa propre identité. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu ne peux pas dire à Dune, je suis resté... voilà, il se passe rien. Quand tu le vois pour la première fois, soit tu l'adores, soit tu le détestes. C'est l'un ou l'autre. Enfin, tu peux pas dire... c'est un film qui a sa propre identité, qui va te mettre plein de choses dans la tête. Après, t'as toujours, est-ce que t'as la connaissance des bouquins ? Est-ce que t'as la connaissance de l'univers de Frank Herbert ? Peut-être. Mais pour le film de 1984, tu peux pas tu peux pas rester un glaçon devant.
Alors, faut savoir que quand le film sort, ça fait 20 ans que le premier bouquin de Dune est sorti, donc la version de Frank Herbert, qui elle aussi... a connu son succès au fur et à mesure des années, jusqu'à sortir un 5e bouquin. Alors, il y a les 2 premiers, après vous avez les Enfants de Dune, enfin le Messie de Dune, même juste avant. On arrive après dans une évolution de l'histoire qui évolue vraiment avec des personnages. Après, on passe à 300 ans, voire 3000 ans plus tard par rapport à l'histoire initiale. C'est vrai que le bouquin nous transporte, surtout dans une histoire politique, géopolitique également. Et voilà, on peut pas renier qu'il a inventé, plus ou moins, il nous a transporté dans quelque chose, dans un univers, quelque chose qui n'avait pas forcément été fait avant.
Ouais. Surtout que tu parles de... Tout à l'heure, tu avais parlé qu'il était sorti juste après Star Wars et qu'il voulait aller dans sa continuité pour surtout attirer du public dans les salles. Star Wars, on va dire que c'est de la politique un peu, t'as du noir et t'as du blanc et t'es l'un pour l'autre, tu vois, t'as le côté light saber, t'as le côté Dark Vador qui est tout noir, t'as le côté un peu c'est tout blanc, c'est tout noir, alors que Dune te propose à ta réflexion de te dire, ah ok, si lui il agit comme ça c'est parce que derrière il y a quelque chose de politique, mais on te le dit pas, on te le montre pas, c'est à toi de te le découvrir grâce à l'univers, avec pourquoi la maison Atreides a reçu ça comme cadeau, pourquoi elle va faire ça, pourquoi les Arconiens attaquent comme ça, enfin, c'est à toi de faire ton propre raisonnement géopolitique, et c'est ce qui apporte le petit plus de Dune par rapport aux autres space opéras comme Star Wars dont on parlait.
Alors on va partir chez les geeks, à moins que tu veux attaquer le film de Denis Villeneuve à présent. Parce que je pense que si on accueille Dominique, il nous dira non, j'irai pas voir votre film. alors, on peut parler des musiques, puisqu'on s'est écouté en introduction la musique de Toto, qui nous transporte quand même, hein, même si on peut avoir quelques avis mitigés sur le film. La musique reste...
Rien à dire.
Extrêmement intéressante et pour ma part passionnante.
Et elle reste, rien à dire, intemporelle. Tu peux l'écouter encore maintenant, ça te transportera autant qu'il y a, 30 ans. Quoi.
Ici donc, Denis Villeneuve fait appel à Hans Zimmer, qui cartonne en ce moment, donc du coup... le lance sur un nouveau film qui pour lui va être un des blockbusters. Je vous propose donc de s'écouter, alors cette fois-ci, encore la musique du film de Dune, mais par Hans Zimmer. Alors vous verrez, on est moins sur des musiques à thème qui vont rester dans votre esprit comme celle de la première BO. Ici, on va être sur des musiques un peu plus d'ambiance qui vont vous porter au fur et à mesure. La chanson qu'on va s'écouter s'appelle « My Road Leads Into the Desert ». La BO du film Dune qui vient de sortir cette année, réalisé par Hans Zimmer pour le film de Denis Villeneuve. Alors, il n'est pas facile de parler du film sans vous le spoiler, puisque je pense qu'il y en a certains d'entre vous, comme il est encore à l'affiche, ça va être difficile d'en parler. Alors, rapidement, en deux phrases... pour ma part, moi j'ai eu l'impression que Denis Villeneuve essayait absolument de ne pas faire quelque chose comme David Lynch, que c'était un peu une des lignes directrices, surtout ne fais pas comme celui qui s'est planté juste avant toi.
Il était dans l'obligation de ne pas faire comme Lynch parce qu'il savait qu'il allait se faire forcément comparer l'un et l'autre. Et s'il le faisait, il aurait été obligé de faire quelque chose d'exceptionnel pour être sûr que la comparaison soit au moins en sa faveur.
Alors, oui, c'est des bonnes idées. Par contre, il y a quand même des choses dans le film de David Lynch qui sont correctes. Alors du coup, les bannir comme ça, c'est un peu difficile sur certains passages. Surtout sur... ce film va être bien pour si vous êtes fan du bouquin. Vous allez pouvoir, sur certaines scènes où il y a des longs silences... où vous dites, ok, là, il y a la psychologie du personnage qui est en train de se passer, on sait à quoi il pense, puisque dans le livre de Frank Herbert, on a les pensées des personnages. Dans le film, on les a pas. Donc, si vous connaissez le film, vous allez vous dire, ah d'accord, là, il est en train de penser à ça, il se passe exactement ça dans cette scène. Si vous connaissez pas le film, je pense que vous allez avoir certains moments de solitude, peut-être à des moments, où vous allez juste apprécier la scène pour sa lenteur. Je sais pas.
C'est vrai qu'il a été dans... J'allais pas dire l'expectative, mais aussi dans l'admiration des scènes qu'il propose, des paysages qu'il propose. Et des fois, il te laisse au moins 15-20 secondes sur une scène où t'as un léger plan qui bouge et qui te montre vraiment, par exemple, une énorme dune avec une musique, comme on vient d'entendre, pour te mettre une émotion. Et en fait, la musique te porte l'émotion de l'image qui t'est proposée, de la scène qui t'est proposée, mais tu enlèves l'image, t'as plus la musique transcendante comme celle de Toto pour le premier film.
C'est ça. Alors, on est sur quoi, 2h45, quelque chose dans le genre. Ouais. Voilà. On lui a dit, tiens, allez,
amuse-toi.
Tu veux faire 3h30, vas-y, fais-toi plaisir. Donc ça coupe. Voilà, on le sait à la fin du film qu'il va y avoir un deuxième film. Ça aurait été difficile de pas signer et de s'arrêter comme ça. Ça aurait été un peu un échec. Mais à mon avis, ça a dû coûter quand même un certain montant pour créer tout ça. Alors, on va partir dans l'univers geek parce que on a quand même une interview assez exceptionnelle à vous proposer. Aujourd'hui dans l'émission Heureusement en France, on va parler du premier jeu PC qui a été réalisé sur l'univers de Dune, qui s'appelle Dune, qui a été créé par Cryo Interactive et édité par Virgin Interactive également. Alors dans le réalisateur, on a Philippe Ulrich, Rémi Herbulot, et pour ce jeu qui est sorti en 1992, on est sur un jeu qui d'aventure... Avec un côté de gestion, un peu en stratégie.
Ouais, un peu de point and click aussi.
C'est ça. Et qui essaie de vous faire retracer. Donc là, Paul Atreides arrive sur Dune, il y est déjà. Et il va devoir donc rallier des Fremen à sa cause. Vous allez visiter des Sitch pour justement récolter des Fremen. Et au début, vous allez leur faire récolter de l'épice. Ensuite, vous allez les former militairement pour aller se battre contre les Harkonnen. Et peut-être, sans vous spoiler, une troisième fonction s'ajoutera au cours du jeu. Alors, c'est un jeu qui, pour son époque, était extrêmement bien réalisé. Alors, faut savoir que... À l'époque, la licence Dune vient d'être accordée donc à Cryo. Et également, en parallèle, se crée chez Westwood un autre jeu qui va porter le nom de Dune. Et en fait, Westwood, ça arrive quelques temps après. Et on va s'apercevoir, au bout d'un moment, ce Dune 2, qui va être l'un des premiers jeux de stratégie en temps réel, les RTS, comme on peut appeler ça, va devoir changer de nom. On en parlera en détail, si on a le temps, dans cette émission ou juste après. Alors, je vous propose d'écouter cette interview qu'on a eue avec un des créateurs, un des compositeurs de la musique du jeu Dune sur PC. Alors, il faut savoir que cette musique en a marqué plus d'un puisqu'elle est sortie sur un CD qui s'appelle Space Opera et qui est pour moi une des meilleures musiques de jeux vidéo qu'on a pu avoir au cours de ces années. Et c'est pour ça que j'ai bataillé pendant des jours et des jours pour avoir cette interview. Donc je vous propose d'écouter donc Stéphane Pic pour sa création et donc écouter un peu cette interview. Bonjour Stéphane Pic et merci de nous accorder cette interview pour notre émission Heureusement en France. Nous t'avons donc au téléphone depuis Madagascar et on te reçoit aujourd'hui pour cette émission consacrée à l'univers de Dune et tu as composé les musiques du jeu vidéo, l'un des premiers jeux vidéo sur le thème de Dune.
Oui, tout à fait.
Alors, une tradition qu'on a dans cette émission, c'est de parcourir un peu les routes de nos invités, comment en sont-ils venus dans cet univers geek et ludique? Alors en l'occurrence, toi, c'est dans l'univers du jeu vidéo. Comment ça s'est passé tout ça? Quels sont un peu les débuts qui t'ont amené justement à faire de la musique?
Alors moi, en fait, je faisais de la musique, je composais, je jouais de la musique comme un hobby pour moi. Donc j'avais un piano électronique, plus un ou deux synthés analogiques. Je m'amusais à faire ça. D'autre part, j'étais passionné par l'informatique, la programmation. Mes parents m'ont offert un des premiers ordinateurs personnels qu'on appelait à l'époque le ZX81, on parle de ça, c'était en 1982, hein. Et j'ai commencé à programmer. Après, je suis passé sur d'autres ordi, et j'ai commencé à programmer des jeux vidéo. On va dire peut-être un plan de carrière, j'espérais devenir un codeur de jeux vidéo. Je l'ai fait, j'ai fait quelques jeux plus ou moins intéressants, on va dire plutôt moins que plus. C'était des prouesses techniques par rapport à mes capacités de codage, mais au niveau de la jouabilité, c'était un peu médiocre. Et puis, à un moment donné, la boîte pour laquelle je travaillais, qui s'appelait R Informatique, ils m'ont demandé de faire une adaptation d'un jeu qui était sur d'autres plateformes. Ils m'ont demandé de faire l'adaptation sur un Commodore Amiga, qui était un ordinateur qui avait des possibilités musicales qui n'existaient pas à l'époque, c'était le premier. Et donc j'ai fait non seulement l'adaptation du jeu, mais j'ai rajouté une musique qui n'existait pas à l'origine. Ça a plu et on m'a dit à l'époque, bon bah écoute, en tant que codeur de jeux vidéo t'es bon, en tant que codeur de jeux par rapport à la jouabilité t'es un peu nul, mais par contre si tu es prêt à faire des musiques pour d'autres jeux de d'autres personnes sur cet ordinateur, c'est l'avenir, on va te payer bien. Et effectivement ils payaient bien. Donc, je me suis mis un petit peu là-dessus. Et à l'époque, bon, quand on programmait des musiques sur Commodore Amiga, c'est quasiment comme de la programmation.
Comme tu le disais, Amiga, ça a été vraiment une plateforme qui a permis à des compositeurs comme toi, justement, de faire des musiques à un autre niveau. Et on peut voir ça dans toutes les démos qui étaient, par exemple, disponibles, rien que de musique qu'on pouvait avoir à l'époque.
Absolument. Et donc, à l'époque, c'était la première fois qu'il y avait un ordi qui avait des capacités de 4 pistes avec des samples, avec des échantillons de sons. Après, plus tard, ils ont fait des systèmes où il y avait 8 pistes. Ça, c'était géré par le logiciel. Mais en tout cas, c'est, effectivement, les musiques sur Amiga étaient codées en pas à pas, en hexadécimal. Mon passé de codeur m'a permis de faire la jonction entre mon hobby de musicien et ma volonté de carrière de programmeur. Et donc, j'ai réussi à le faire.
Alors, tu parles d'un hobby de musique. Est-ce que tu jouais un peu d'instruments à l'époque ?
Oui, tout à fait. J'ai joué du piano. J'avais un ou deux synthés analogiques, mais c'était au départ, c'était un hobby, quoi. C'était, je jouais tranquille dans ma chambre. J'avais 18 ans. Je ne viens pas d'une famille pauvre ni d'une famille riche. Je viens d'une famille modestement aisée. Donc, j'ai pu avoir un petit peu la possibilité d'avoir un petit peu de matériel. Et au départ, bon, c'était simplement un hobby. Et lorsque les deux choses sont rentrées en conjonction, c'est-à-dire que ma capacité à programmer et ensuite ma capacité à improviser, à composer des morceaux, et ça s'est imposé à moi que je devais faire ça.
Alors, c'est, comme tu le dis, c'est, là on parle des débuts du jeu vidéo. On peut dire quasiment qu'à cette époque, on n'était pas encore dans l'industrie qu'on peut connaître maintenant, puisque aujourd'hui, on parle de crunch, on parle de conditions de travail, des fois qui peuvent être très déplorables dans le jeu vidéo. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi à l'époque ?
Au départ, c'était parfait, c'était magnifique. On me payait 2000 francs français pour un morceau que parfois je faisais en 3 heures, hein. Honnêtement, 4 heures, une nuit, 2 heures. Donc on a commencé à me rémunérer pour des musiques de jeux vidéo sur Amiga, notamment. J'ai commencé avant, mais c'est sur Amiga que ça a vraiment été intéressant. Parce qu'on avait des capacités musicales qui permettaient de faire des morceaux de musique à peu près autre chose que des bip-bip, quoi. On était tous auteurs indépendants, hein, c'est-à-dire qu'on avait ou non des avances sur production, et lorsque le jeu sortait, une fois les avances remboursées, on avait un pourcentage, on avait des royalties sur les ventes du jeu. Donc c'était très intéressant parce que c'était très motivant, parce que on pouvait justement, si on faisait vraiment du bon boulot, quoi, que le jeu se vendait bien, ben on pouvait vraiment gagner plus après le remboursement des avances. Et donc, au départ, Cryo Interactive Entertainment, la société que nous avons créée à 11 personnes, j'étais le 11e, on était tous auteurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de salariés, on était tous auteurs. Ça, c'était le début. Et puis, on était un peu des pionniers. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était en train de défricher des choses que personne ne faisait. Et bon, après, ça a changé.
Alors, ça a changé puisque, je pense, c'est Infogrames qui, du coup, rachète une partie du catalogue de Cryo, c'est bien ça ?
Non. Avant Cryo, c'était Infogrames qui a racheté la totalité, qui n'a pas racheté puisqu'ils n'ont pas payé. C'est Infogrames qui a injecté de l'argent dans R Informatique, qui était une société qui faisait des bons jeux, mais qui était déficitaire. Donc Infogrames sont venus, hein, monsieur Bruno Bonnet, le patron de Infogrames, je ne vais pas dire qui c'est aujourd'hui parce que tout le monde sait que c'est un député aujourd'hui, mais à l'époque il a dit bah, j'injecte de l'argent mais c'est moi qui suis le distributeur principal, même exclusif de vos jeux. On trouvait ça très bien, c'était magnifique hein, parce qu'ils avaient plus de moyens que nous. Et puis en fin de compte, eux ils avaient que des jeux de merde, nos jeux étaient bons et en fait ils ont sauvé leur entreprise en commercialisant nos jeux à nous qui étaient bons. Et nous l'argent, eh ben, on l'a jamais vu.
Et de là donc est né Cryo Interactive.
Voilà, donc quand on a vu qu'on était en train de se faire traiter mal, on va dire pour ne pas être vulgaire, hein, notre directeur artistique était Philippe Ulrich. A trouvé le moyen de nous mettre en contact avec Virgin Games Entertainment France, Virgin Games France, et nous avons fait un premier jeu qui s'appelait Extase avec de la musique interactive, et ensuite nous avons réussi à avoir des magiques et on a obtenu la licence de Dune.
Alors, ce qui a...
Ça c'était totalement magique.
Bah, ce qui à l'époque était unique, puisque ici on parle vraiment du premier jeu qui se base comme ça sur l'univers de Frank Herbert. Alors toi, est-ce que tu connaissais déjà un peu Dune ? Est-ce que ça te parlait à l'époque ?
Absolument, c'est un roman que j'ai lu en français, en anglais, en français, en anglais. Avant même que ce projet existe, c'était un roman que j'avais lu environ, 6, 7, 8 fois.
Et du coup, bah, ça a dû être, je pense, pour toute l'équipe, vraiment un projet qui a dû motiver tous ces développeurs et musiciens comme toi. Est-ce que tu te souviens un peu comment s'est passé le développement du jeu ? Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter ?
Oui, bien sûr. En ce qui concerne la musique, à l'époque, tous les PC n'avaient pas de carte son. C'était une option. Tu achetais ta carte son éventuellement. Voilà. La carte son, elle était, c'était ce qu'on appelait à l'époque une carte Adlib. Plus tard, ça a eu d'autres noms, Sound Blaster et tout, mais au départ, c'était une carte Adlib. Donc, c'était un synthé avec des possibilités relativement limitées. Et le logiciel qu'il nous fournissait pour le kit de développeur était assez médiocre. Et moi, si tu veux, j'ai utilisé mon passé de programmeur pour concevoir un logiciel qui a été programmé par Rémi Herbulot, qui était le chef de projet et le chef programmeur. Moi, j'ai conçu le logiciel, lui, il l'a codé. Et j'ai voulu faire un logiciel où on pouvait jouer en MIDI, c'est-à-dire sur, par exemple, Pro 24 ou Cubase maintenant, hein, le morceau, et le convertir en MIDI. Bon, on n'avait que 9 pistes de disponibles, mais c'était quand même pas mal. Et j'ai demandé au programmeur de me laisser accéder à plein de paramètres qui n'étaient même pas documentés dans la documentation de la carte d'origine, pour avoir une expressivité importante. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la vélocité, c'est-à-dire la force sur laquelle on tape une touche, n'était pas seulement liée au volume, elle était liée aussi à certains paramètres. Donc tu peux avoir un son qui fait, tu vois, comme un peu la techno. L'aftertouch, c'est-à-dire comment tu écrases les touches une fois que tu as appuyé dessus. Donc tout ça a été intégré. Et donc moi, j'ai conçu le logiciel et M. Rémi Herbulot l'a codé. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'était la première fois où, par rapport à toutes les musiques que j'ai fait avant, où j'ai joué vraiment sur le clavier. À la limite, j'ai joué d'abord les morceaux prévus pour l'album, parce que Philippe Ulrich était persuadé qu'on aurait un album là-dessus. Et c'est après seulement que j'ai adapté ces morceaux prévus pour l'album, en éventuellement réduisant le nombre des pistes, et en faisant plein de sons vraiment perso. Tous les sons, je les ai faits de A à Z. Hein. Et d'avoir, pour la première fois sur PC, un son expressif.
Alors, est-ce que tu as réutilisé après ce logiciel sur les autres jeux, puisque tu as participé à Lost Eden, Riverworld, Atlantis ?
On l'a utilisé uniquement pour Mega Race. Voilà. Après, la technologie ayant évolué, dès qu'on est passé à Lost Eden et d'autres jeux par la suite, on enregistrait carrément, même si ce n'était pas en 44 kHz, c'était en 22 comme une cassette audio, quoi. Même si personne ne sait ce que c'est aujourd'hui. On arrivait à enregistrer carrément le morceau tel qu'il sortait du studio. Voilà. Ce logiciel a servi pour Dune et pour Megares. Après, il n'a plus servi parce qu'on avait des puissances informatiques suffisantes pour jouer carrément de la piste numérique enregistrée par ailleurs.
Alors, on va en profiter du coup pour parler de l'album de Dune. Alors, qui s'appelle Space Opera et qui est labellé sous le titre Exos.
Oui.
C'est un label que vous avez créé.
Exo, c'était un label qu'a créé Philippe Ulrich au sein d'Air Informatique pour faire un label un peu différent, beaucoup plus innovateur. C'était un truc un peu de Barjot. On a fait même des événements et tout. Il a fait des sacrifices d'Amstrad CPC dans un salon et tout, avec les cheveux tous peints en bleu, avec des mantras pseudo-religieux, sectaires. Enfin, c'était un truc un peu débile, mais très marrant, on s'est bien amusé. Et donc, il y a eu Air Informatique à un moment donné, justement pour échapper à l'emprise d'Infogrames, à créer un label Exos. Ensuite, lorsqu'il y a eu l'album, on ne pouvait pas utiliser le nom Dune, parce qu'il y avait déjà la musique du film. Donc, comme bon, moi j'ai fait la majorité de l'album et Philippe Ulrich a beaucoup contribué, et notamment il a co-composé trois morceaux avec moi. Donc c'est lui-même qui a décidé qu'on allait faire le nom de groupe Exos et que l'album ça allait s'appeler Space Opera, l'opéra de l'épice. C'était un petit jeu de mots avec Space Opera.
Alors comme tu le disais tout à l'heure, tu as créé les musiques de Dune, mais sur un format un peu plus avancé que celui qu'on allait pouvoir retrouver par exemple sur l'Amiga. Après il y a une portation sur DOS, sur Mega CD, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs versions des musiques.
Tout à fait. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, il y a un album qui a été créé en imaginant qu'on allait faire un album, ce qui n'était pas sûr à l'époque, finalement ça s'est fait. Et c'est lorsqu'il a fallu transposer ces musiques sur les différents supports informatiques, j'ai fait beaucoup pour la version PC, c'est-à-dire que j'ai conçu le logiciel, mais je ne l'ai pas codé, mais je l'ai conçu. Hein. Sur Amiga, c'était compliqué, c'est même pas moi qui l'ai fait, moi j'ai fourni au gars qui a adapté, Alex Abikian, j'ai fourni les sons et les mélodies. Après, c'est lui qui a fait. On a d'abord conçu l'album et ensuite on l'a réduit pour en faire des choses jouables sur les différents supports informatiques.
Alors, quand on écoute la BO de Space Opera, on entend des nappes d'ambiance, on entend une cour d'école, un ruisseau. C'était une envie particulière de ramener comme ça une nature et...
Ça, c'était l'idée de Philippe Ulrich, qui était mon directeur artistique, qui a été co-compositeur de 3-4 morceaux sur l'album. En fait, oui, on a voulu faire quelque chose où il y a des sons de la vie courante. Je ne vais pas mentir, hein. Ça vient d'une banque audio de Radio France. Et d'ailleurs, le monsieur qui a enregistré, par exemple, La Cour des Enfants, et qui est dans un des morceaux, le premier, je crois, il a reconnu, il a dit, il nous a appelé, ah, c'est moi qui ai enregistré ça, ah, c'est cool, merci, mais vous auriez pu quand même me créditer. Ouais, c'est vrai. Après, c'était des sons en libre service, c'est-à-dire qui étaient libres de droit, qui étaient vendus comme ça. Plus tard, quand j'ai fait Lost Eden et tout, tous les sons intermédiaires qui étaient entre chaque morceau, c'est moi-même qui les ai faits.
D'accord. En tout cas, c'est... vraiment un chef-d'œuvre que tu as pu réaliser ici, qui maintenant hein, est quasiment introuvable, puisque le CD Space Opera était dans la boîte du jeu, c'était une sorte d'édition collector.
Au départ, lorsque la version finale de l'album a été disponible, moi j'étais très content, j'ai signé avec Virgin Records. Tu vois, je planais à 10 mètres du sol. Virgin Records, j'étais le premier français qui signait avec eux depuis Julien Clerc 10 ans avant. J'ai signé un contrat sans le lire, un contrat assez compliqué en anglais juridique. Hein. L'anglais juridique, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. Je veux dire, tu peux avoir un paragraphe qui fait deux pages. Après, plus tard, ils ont intégré Space Opera dans une édition limitée du jeu en version CD-ROM. Voilà. Après, ce qui s'est passé, c'est que Virgin a été racheté par EMI Publishing. EMI Publishing ont supprimé plein de morceaux de leur catalogue, y compris... mon album, y compris Philippe Glass, qui était dans le même label que moi, c'est-à-dire Virgin Venture, hein, Philippe Glass quand même. Et donc, le truc a été commercialisé 2 ans, et après, il n'y en avait plus. Tis, en malgache, ça veut dire il n'y a pas.
C'est marrant parce qu'on est aussi des fans de Philippe Glass dans l'émission, donc merci de l'avoir cité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes te demandent ou ont dû te demander quand est-ce qu'il y aura une réédition de cet album. Et comme tu n'as pas les droits de Virgin, pendant plus de quoi, 20 ans, tu n'as pas pu envisager en tout cas une sortie de l'album.
En l'absence de date, alors que moi j'ai monté un label avec mon ami Pierre Estève, nous avons monté Multimédia Music, où nous trouvons encore ses albums et les miens, Lost Eden, Riverworld, si on parle de mes albums, il a aussi les siens. À l'époque, j'ai demandé à EMI Publishing, qui était le nouveau propriétaire des droits, à récupérer mes droits, même en les payant. Et non, ils ont dit non. Alors moi, j'ai signé un contrat sans date, donc c'était pour 30 ans. Ça se termine en 2022, donc dans un an. Donc peut-être que en 2022, je serai en mesure de ressortir un remix de cet album qui est un peu mythique. Aujourd'hui, il s'échange sur les plateformes de vente, il s'échange à 50-60 euros.
Ah non, il a bien monté depuis. les dernières versions que j'ai pu voir, on est aux alentours de 300 euros maintenant. Hein.
Ah bah ouais, hein, merde, je gagne pas d'argent là-dessus, c'est chiant.
c'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes attendent alors pas forcément un remix, mais en tout cas une réédition, et peut-être d'autres supports. Hein. On voit aujourd'hui des supports tels que le vinyle qui reviennent à la mode.
J'ai été contacté par une société d'édition qui veut faire 500 vinyles en édition très limitée, qui vont vendre extrêmement cher et qui me propose une somme assez intéressante pour le faire. C'est-à-dire qu'à partir de mars 2022, je redeviendrai propriétaire de mes droits.
Alors on attend avec impatience forcément cette date, en tout cas dans notre émission. Alors aujourd'hui, tu as quitté un peu tout cet univers et tu as fui un peu, je pense, le fait que le jeu vidéo devenait une industrie.
Absolument.
Tu es parti donc à Madagascar. Est-ce que tu composes encore un peu de musique? C'est une des grandes questions de tes adeptes.
Adeptes, je ne sais pas, ça sent la secte, mais en tout cas...
de tes fans alors.
Peut-être. Je n'ai rien composé pendant 10 ans. J'ai juste joué du djembé avec des potes dans des endroits ici. Je joue aussi de la guimbarde, de la flûte. Je me suis juste amusé. Après, il y a maintenant 6-7 ans, j'ai pu me reconstituer un studio, le studio de mes rêves à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, on avait une demi-tonne de matériel, 2000 mètres de câbles et un fer à souder tout le temps dans la main. Hein. Et moi, je rêvais de ce que j'ai aujourd'hui. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est quoi? C'est un ordinateur portable, des logiciels.
Un clavier MIDI.
Un clavier de contrôle, une carte son professionnelle externe et c'est tout. Et donc, j'ai un studio portable, je peux même aller jouer sur la plage, quoi. Moi, à l'époque, si tu veux, après avoir passé des années et des années à programmer, donc les yeux devant les écrans, à l'époque, j'en pouvais plus de ça. Aujourd'hui, j'ai à ma disposition plus de 15 000 sons que je peux muter, même sans passer du temps à éditer 1700 paramètres, comme avec le Yamaha SY77 que j'ai utilisé pour Dune. Tout est sur mon ordi et donc, par conséquent, je me sens parfaitement... à l'aise de refaire des morceaux comme je les faisais autrefois avec beaucoup plus de facilité.
Alors tu as composé dernièrement un morceau, est-ce que tu nous autorises à le passer dans l'émission?
Mélancolica?
Ouais. Alors, moi, tu as...
Bien sûr.
Bah parfait.
Bon, c'est un morceau très lent et très ambiance, hein. Mais bon, oui, je suis très content de ce morceau que j'ai fait en quelques heures. De toute façon, les meilleurs morceaux que j'ai faits, par exemple Ecolove dans Dune, dans Space Opera, c'est un morceau que j'ai fait en 4-5 heures dans la nuit, quoi. Les meilleurs morceaux que j'ai faits, c'est ceux sur lesquels j'ai passé le moins de temps.
Où l'inspiration était peut-être la plus forte, qui a fait que tu as foncé, que tu as réussi à, comme ça, à écrire d'une boucle.
Probablement, oui.
Aujourd'hui, Dune revient un peu à la mode et c'est sûrement pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui, majoritairement avec le film de Denis Villeneuve. Est-ce que tu as pu y jeter un coup d'œil? Est-ce que tu as écouté les musiques de Hans Zimmer?
Pas encore, mais j'ai pu quand même écouter un... Alors, en français, on dit une bande-annonce, mais il y a des nouveaux mots à la mode maintenant. J'ai pu écouter, ça me paraît absolument magnifique la musique qu'il a faite. C'est peut-être bien la meilleure musique qu'il a faite de toute sa vie, parce que c'est un univers qui est très inspirant.
Alors, il y a encore plusieurs polémiques, hein, mais c'est surtout parce que l'univers de Dune est tellement grand que les fans cherchent toujours quelque chose de très spécifique et on peut malheureusement pas plaire à tout le monde, surtout sur un univers comme Dune.
Je me permets de t'interrompre. Ce qui est intéressant dans Dune, et pourtant c'est un livre qui a été écrit dans les années... 60-70, je crois. Hein. On parle déjà dans un roman donc dit de science-fiction On parle des guerres géostratégiques pour le contrôle des ressources. Et c'est un roman qui est toujours à l'ordre du jour aujourd'hui, quand on voit que des grandes nations capitalistes ou des grandes multinationales qui déclenchent des guerres dans des pays pour le contrôle, notamment du pétrole ou du gaz naturel, ou éventuellement d'autres choses. C'est-à-dire que pour moi, ce roman, il est prophétique, pas seulement parce que il parle déjà du djihad et tout, et bon, ça c'est... c'était plus gentil quand il en parlait à l'époque que ce qu'on peut parler aujourd'hui. Mais pour moi, ce roman est prophétique à plus d'un titre.
Maintenant qu'on voit l'intelligence artificielle qui commence à être poussée vraiment à son extrême, on se demande si on va pas se retrouver comme dans Dune sur une interdiction des machines à penser. Alors peut-être qu'on est encore dans la science-fiction aujourd'hui et peut-être qu'on y arrivera, hein, qui sait, dans les années à venir.
Tu veux dire l'annulation, la destruction des machines à penser et revenir aux capacités de l'être humain. Malheureusement, je crois que c'est le seul volet de Dune qui n'est pas près d'arriver, puisque on voit bien comment ça se passe aujourd'hui. Hein. J'ai pas besoin de dire des choses, trop de choses. Hein. Par exemple, moi j'ai un smartphone. Hein, Google machin là. Oh, c'est cool, hein, je peux dire en parlant, hey Google. Blablabli, blabla. Sauf que le problème, c'est que Google, il m'écoute tout le temps. C'est-à-dire que, bon, moi, je veux bien que ce que je publie sur Facebook, on m'envoie des pubs ciblées. Ce que je publie sur Messenger, on m'envoie des pubs ciblées. Mais quand je parle avec un pote autour d'une bière et que là, je ne suis pas sur Internet, je parle, par exemple, que j'ai mal au dos et qu'une heure après, dans mon fil d'actualité Facebook, j'ai des remèdes contre le mal au dos, là, ça me casse carrément les couilles parce que ça peut aller très très loin.
Après,
donc j'ai supprimé toutes les reconnaissances vocales de Google, tout simplement.
J'allais dire, après ils vont te donner un remède pour les couilles, donc ça tourne sans fin.
Ah oui, non, je l'ai supprimé, donc il ne demandera pas un remède pour les couilles sur ce coup-là.
Alors, on peut retrouver l'ensemble de tes productions et d'autres musiques, et notamment la dernière Melancholica sur ton SoundCloud. Donc, il suffit de chercher Stéphane Pic, P-I-C-Q. On espère que tu auras d'autres musiques prochainement à nous proposer, vu que...
J'en ai plein. D'ailleurs, je songe à publier dans quelques jours... Un pote plus jeune que moi m'a dit que j'étais trop vieux pour faire de la hard tech. Tu vois ce que c'est la hard tech? C'est genre le truc à 5h du matin dans les rêves parties où ça arrache tout et il n'y a pas trop de mélodie, mais bon, tout le monde est bourré, donc voilà. Donc il m'a dit, t'es trop vieux pour faire de la hard tech. J'ai dit, ah bon? Bon, ok, en 4 heures, j'ai fait un morceau de hard tech. Ça s'appelle C19, tu vois? Parce que j'étais fâché contre le C19, le Covid-19. Voilà. J'ai fait ce morceau, je ne sais pas encore si je le mets sur mon SoundCloud, parce que je pense qu'une partie de mon fan club, quand ils vont entendre ça, ils vont dire « Ah non, mais Stéphane Pic, il part en couille !» Parce que c'est du hard tech, c'est vraiment du brutal, de chez brutal, tempo 180. Tu vois, il n'y a pas de mélodie sauf à la fin. À la fin, il y a de la mélodie. Mais au départ, il n'y a pas de mélodie, il n'y a que des robots qui chuchotent, des robots sataniques qui chuchotent, quoi, au-dessus du rythme. Voilà. Je me suis amusé à faire ça. En fait, je peux... Je ne sais pas si c'est prétentieux de ma part de le dire, mais peu importe, je le dis quand même. Moi, je suis un couteau suisse. Je peux faire toute musique. Tu me donnes un exemple. Tu veux que je fasse du jazz? Je fais du jazz. Tu veux que je fasse de la techno-trance? Je fais de la techno-trance. Tu veux que je fasse du rock? J'ai fait du rock. Je peux faire tout.
Parce que tu aimes plusieurs styles de musique, en fait. Quand j'ai regardé dans d'autres interviews, c'est vrai que tu ne te prédéfinis pas à un style en particulier. Tu as quand même... une large écoute par rapport aux différents styles.
J'aime toutes les musiques du moment qu'elles sont bonnes. Voilà, ça peut aller du jazz rock à Pink Floyd, au planant de Tangerine Dream, au jazz. J'aime toutes les musiques du moment que c'est pas de la soupe. Toutes les musiques sont bonnes, tous les styles sont bons. Après, ça dépend qui les joue et comment ils les jouent. J'ai rien à foutre du style, moi. Il y a des gens qui font des bonnes musiques, quel que soit le type de musique, et puis des gens qui font de la mauvaise musique, quel que soit le type de musique. Moi, par exemple, j'aime bien Moby. Mais Moby, il y a des trucs qu'il a fait que je trouve que c'est à chier, et puis il y a des trucs que je trouve qu'il a fait, c'est très bien. je peux avoir des a priori sur une musique qui est pauvre en harmonie, qui est pauvre en mélodie et qui est une espèce de copier-coller parfois.
Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette interview ?
Absolument. Je veux rajouter pourquoi est-ce que je suis parti. Nous, Cryo Interactive, nous avons créé une start-up, ça ne s'appelait pas start-up à l'époque. On a créé une boîte à 11 personnes. Okay ? Rapidement, on est passé à 100 personnes. Rapidement, on est passé à 200 personnes. Un peu moins rapidement, on est passé à 300, 350. Okay ? On avait commencé à louer un étage, puis le deuxième, et le troisième, et le quatrième. On était à l'époque des pionniers. C'était magnifique, c'était génial. On était tous des créatifs. On était rémunérés sur notre créativité avec des avances sur royalties non remboursables si le jeu marche pas. Mais une fois l'avance remboursée, on avait pas mal de pognons qui tombaient en royalties. Lorsque nos dirigeants, qui étaient nos amis, qui ne l'ont plus été après, ont décidé de vendre une partie des parts de la société à LVMH. LVMH, c'est Bernard Arnault, hein, déjà à l'époque. Hein. On a vu venir des costards cravates et qui ont commencé à nous dire comment il fallait faire et comment il fallait faire. Ils ont salarié tout le monde, hein, mais avec des salaires très très intéressants. Hein. Je parle de, à l'époque, on était dans des salaires à 40 000 francs. C'est-à-dire en euros, bah, t'as qu'à faire la conversion. Je veux dire, des salaires très intéressants. Mais on n'avait plus de marge de manœuvre en tant que créatif. Or que moi, j'avais toujours travaillé avec carte blanche. Voilà, notamment pour Lost Season, par exemple. Hein. Lorsque j'ai vu venir que pour qu'un jeu sorte en temps et en heure parce qu'il y avait une contrainte de date de sortie, parce qu'il y avait les détenteurs de parts, je ne parle pas d'actionnaires, parce que ce n'était pas une société anonyme, hein, qui faisait la pression. Lorsque j'ai vu qu'on a enlevé de force le disque dur d'un programmeur, d'un chef de projet qui ne voulait pas sortir le projet, parce qu'il a dit « c'est buggé », c'est pas maintenant. On lui a dit « on s'en fout, on mettra un patch plus tard ». Ça a été un flop total, le jeu s'appelle « Riverworld », le monde du fleuve, tiré de la licence du livre. Hein. C'était un jeu extrêmement ambitieux, peut-être un peu trop à l'époque, compte tenu des limites techniques, voilà. En tout cas, bon voilà, à l'époque, on est arrivé dans un système, on n'était plus des créatifs, on était des pions. Et lorsque j'ai vu ce système, j'ai eu l'occasion, j'avais des rêves d'Afrique, j'ai eu l'occasion d'aller travailler dans une mine de saphir à Madagascar. Et là, j'ai tout plaqué, j'en avais assez des écrans, assez de 2 km de câbles et de 800 kg de matériel chez moi. Et j'ai tout quitté. Et je ne regrette pas, voilà.
Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, du coup, à Madagascar ?
Aujourd'hui, je fais de la création de bijoux, je vends des pierres précieuses. Je vends des pierres précieuses un peu hors normes, comme on appelle les saphirs étoilés. Ça, chacun peut se renseigner sur Internet. Et aussi d'autres pierres, essentiellement des saphirs, puisqu'on en a plein à Mada. Et puis aussi plein de pierres, j'ai toutes les pierres. Et je fais de la création de bijoux. Je dessine les bijoux. Aujourd'hui, bon bah, la fermeture des frontières m'a mis à terre, j'ai des dettes, mais du coup, comme quoi, tout mal vient bien, c'est pas le proverbe exact, j'ai oublié, hein. Je me suis remis à faire de la musique au niveau professionnel, voilà. Je faisais déjà de la musique depuis une dizaine d'années, mais pour moi, j'ai fait des trucs, j'ai environ une centaine de thèmes, quoi. Là, je commence à être sollicité depuis justement Melancholica que tu as cité tout à l'heure. Et je commence à avoir des sollicitations du monde entier pour faire des musiques pour des jeux. Et j'ai commencé à m'y remettre en fait. Voilà.
Donc à terme, on pourrait peut-être te revoir sur d'autres bandes de sons de jeux vidéo, qui sait ?
Absolument.
C'est ce qu'on attendra en tout cas avec grande impatience. Merci beaucoup Stéphane Pic. On espère un jour te revoir du coup pour un autre projet. Tu es toujours le bienvenu dans notre émission Heureusement en France et sur Radio Campus Lille. On te souhaite donc d'autres bonnes compositions à Madagascar. Et comme on dit dans l'émission, d'ici là, porte-toi bien.
On va essayer. Je te remercie de tes questions intelligentes qui m'ont permis de faire des réponses intelligentes aussi.
Voilà, comme je l'ai déjà répété une centaine de fois, un grand merci à Stéphane Pic, que vous pouvez retrouver donc sur ce SoundCloud, Stéphane P-I-C. Q. Alors, on arrive à la fin de cette émission. On reprendra ce thème de l'univers de Dune avec les autres jeux vidéo, les jeux de société, les comics, les BD et plus si affinité.
Il y a de quoi parler.
Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. On va se quitter avec la chanson qui s'appelle Mélancolica, donc une des dernières créations de Stéphane Pic.
Radio Campus Lille, 19h.